Nous allons commencer avec deux, trois passages. Tout d'abord, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 14, verset 20, on va lire deux versets dans ce chapitre, et puis en suivant, nous irons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 7. Donc, 1 Corinthiens 14 et le verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Nous pouvons lire le verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Nous allons maintenant dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. » Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne le foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Amen. Il y a un sujet qui m'a, occupé cette semaine et que j'aimerais vous apporter ce matin, c'est par rapport au fait de juger. Devons-nous juger ou ne devons-nous pas juger? La question se la pose souvent. Parfois, on se reproche, on se culpabilise même d'avoir jugé. Voilà, j'ai jugé là, on se reprend. Et c'est vrai que cela pollue nos pensées, parfois nos paroles. Et cela est évident, cela pollue aussi nos relations les uns vis-à-vis des autres. Car porter un jugement peut nuire à une relation. Faut-il juger? Ne faut-il pas juger? Nous allons essayer d'aborder au mieux ce sujet ce matin, sachant qu'il est délicat et complexe. La question n'est pas si simple que cela. Puisque dans certains textes de la parole de Dieu, il nous est clairement dit, notamment celui-ci, de ne pas juger, alors que dans d'autres textes, oui. Curieux. Et c'est pas si simple. Le jugement se fait d'après certaines normes. Si je suis hors norme, je vais m'attirer un jugement sur moi. J'ai apporté avec moi deux cravates. Si je mets cette cravate, belle cravate, c'est une cravate passe-partout, je n'aurai pas de jugement ou alors un jugement positif. Ah, Lionel a mis une belle cravate ce matin. J'en ai apporté une autre. Si je mets cette cravate, là, j'aurai des regards interrogateurs. N'est-ce pas? Je l'ai déjà mise, mais dans une situation particulière. En effet, si je la mets en colonie de vacances, dans le cadre d'une animation pour les enfants, avec le costume qui va avec, parce que j'ai le costume qui va avec, alors là, j'aurai pas de jugement négatif. Au contraire, j'aurai peut-être un jugement positif en disant « Ah, Lionel, il sait s'adapter aux enfants ». Mais si je la mets lors du culte, je vais avoir un jugement sur moi en disant « Il est un peu excentrique, notre pasteur. » Un peu marginal, n'est-ce pas? Vous voyez? Alors j'ai choisi de ne pas en mettre. C'était plus simple. Mais il est vrai qu'une fois j'ai mis une cravate très classique, comme celle-ci, dans une église où on n'avait pas l'habitude. Je ne savais pas, c'était la première fois que j'étais dans cette église. Et un jugement n'a pas tardé après le culte à arriver. C'était lorsque j'étais missionnaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, moi j'arrivais de France. Et à l'époque-là, tous les pasteurs avaient la cravate, vous comprenez. Et moi j'arrive là-bas, je mets la cravate, sauf que là-bas la cravate n'est pas appréciée. Je ne le savais pas. Et un frère, à la fin du culte, m'a dit « Ah, tu nous prends de haut avec ta cravate !» J'ai plus jamais remise après. Vous voyez ? Dès qu'on sort de la norme établie ou qu'on s'est établi soi-même selon peut-être nos us et coutumes, selon notre culture ou selon certains principes ou selon peut-être même certaines règles ou voire certaines lois, eh bien on s'attire des jugements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc on voit que la question n'est pas si aisée que cela y paraît. Jésus nous a dit de ne point juger afin que nous ne soyons point jugés. Ça pourrait, comme ça, être simple, mais quand on lit d'autres textes, d'autres paroles de Jésus, on voit que Jésus a aussi porté jugement. On va dire il a l'autorité pour le faire, car qui dit jugement dit une certaine autorité. Une certaine autorité. Or, Jésus dit au verset 5, hypocrite. Il dit au verset 6, et c'est une recommandation de sa part, de ne pas donner les choses saintes aux chiens et de ne pas jeter nos perles aux pourceaux. Encore faut-il discerner qui sont les chiens et les pourceaux. Donc on voit que c'est pas si simple, parce que le discernement fait partie du jugement. Alors, parfois, pour éviter la question, on esquive en disant « Ah, j'ai pas jugé, j'ai donné mon avis », mais c'est déjà un jugement. Vous voyez, c'est pas si simple que ça. J'ai pas jugé, j'ai constaté. Bon, vous voyez, on esquive un peu comme ça, comme on peut, parce que c'est, on reconnaît que c'est pas simple. Jésus a aussi dit aux pharisiens « Malheur à vous, pharisiens ». Dans l'enseignement de l'apôtre Paul, on voit aussi les deux. On voit que l'apôtre Paul recommande de ne pas juger et parfois il recommande de juger. Par exemple, on peut prendre dans Romains chapitre 2, Romains chapitre 2, Romains chapitre 2, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qu'il est fait que tu échapperas au jugement de Dieu? On pourrait continuer tout le chapitre 2, mais on voit ici que c'est clair quand même ce que nous dit l'apôtre Paul. On passe maintenant au chapitre 14. Les Romains, toujours dans les Romains. Verset 1er. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, et tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Donc là, on voit encore que c'est clair ce que nous dit l'apôtre Paul par rapport au jugement qui concerne certaines opinions. Et là, en l'occurrence, c'était par rapport au fait de manger certains aliments, car nous savons que les chrétiens, surtout d'origine juive, avaient une certaine réticence à manger certains aliments qu'ils considéraient comme impurs. Et puis, il y avait aussi... à cette époque-là, les viandes qui étaient sacrifiées aux idoles, comme on a aujourd'hui d'ailleurs, et certains accusent leur conscience, on a aujourd'hui la viande halal, par exemple. Oui, c'est pas si simple le problème. Faut-il en manger, faut-il pas en manger? Donc on voit que le sujet est aussi d'actualité par rapport à aujourd'hui. Et c'est vrai que on pourrait... Par exemple, je parlais de la viande halal, se trouver avec certaines personnes en manger sans que cela nous attire un jugement. Par contre, si je suis avec d'autres personnes et que j'en mange, là, je peux m'attirer un jugement. Donc, le sujet n'est pas si simple que cela. Et l'apôtre Paul nous dit encore là, et c'est clair, que ça regarde son maître et de ne pas mépriser. Il invite à ne pas mépriser, il invite à ce que chacun agisse selon une pleine conviction. Il faudrait bien sûr approfondir ce sujet par rapport à ses opinions, mais en tout cas, on doit, et là c'est important, respecter la conscience des autres, c'est ce que nous dit un peu plus loin l'apôtre Paul, afin justement d'éviter d'être en scandale aux autres et que ce scandale apporte... un jugement apporte du trouble au sein de l'Église. Maintenant, nous allons passer dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1er. 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous à la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Ah. L'apôtre Paul dit, j'ai déjà jugé. Ah. Curieux, hein? Verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Donc ceux du dehors, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas membres de l'Église, c'est-à-dire qui ne sont pas sauvés, et ceux du dedans, ce sont ceux qui font partie de l'Église. Verset 13. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Dieu les juge. Et puis il dira, ôtez le méchant du milieu de vous. Et lorsque l'apôtre Paul parle de certains hommes, il en cite, on voit à ce moment-là qu'il donne certaines recommandations, qu'il dénonce ce qu'il fait, et même il dira encore ailleurs de condamner les œuvres des ténèbres. Donc on voit que là, dans certains textes de la parole de Dieu, il y a cette recommandation de ne pas juger, puis dans d'autres, par les mêmes auteurs, là en l'occurrence c'était l'apôtre Paul, il y a aussi l'opposé qui est là. Alors, il est important pour nous d'apprendre à discerner, et comme dit l'apôtre Paul dans le texte, le verset d'introduction que nous avons lu, par rapport au jugement, il faut que nous soyons des hommes faits, c'est-à-dire des hommes matures qui qui comprennent les choses, qui savent faire un discernement, qui soient justes. Alors, on va lire dans Jacques chapitre 2, on va aller sur une piste de réflexion dans Jacques chapitre 2, verset 4. Jacques chapitre 2, verset 4. Juste verset 4. On a étudié cet été l'épître de Jacques. Et le verset 4 nous dit ceci. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Jacques parle d'un cas de figure dans l'Église où il y a du favoritisme. Et voilà, le favoritisme, c'est un choix qui est fait, et qui dit choix dit jugement. Et il prend un exemple à partir du verset 2 en disant que si dans l'Église il y a un homme riche qui rentre, bien habillé, etc., voilà, et alors on va lui donner une place d'honneur. Et puis, s'il y a un pauvre qui est misérablement vêtu, eh bien, à ce moment-là, on va dire au pauvre, eh bien, toi, tu t'assois au fond, dans le coin, là-bas, voilà, et puis, voilà. Donc, il dira, à ce moment-là, vous faites une distinction et vous jugez selon l'inspiration, sous inspiration de pensées mauvaises. Et là, nous sommes vraiment au cœur de notre sujet, c'est que notre jugement, et ça, c'est depuis la chute, hein, notre jugement est faussé à cause des pensées que nous avons qui sont mauvaises. Et ils sont inspirés par ces pensées qui sont mauvaises. Alors, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure dans l'Évangile selon Matthieu, on voit qu'il y a là déjà certaines pensées qui sont mauvaises, et on comprend pourquoi à ce moment-là, Jésus nous a dit de ne pas juger, puisque, en fin de compte, lorsque nous lisons le verset 3, on voit que celui qui juge, il voit les petits défauts des autres qu'il met vraiment, il accentue ses défauts, et il les caricature peut-être, alors que lui, il voit pas la poutre qu'il a dans son œil. Et ça, c'est une pensée mauvaise, en fin de compte. De chercher, de voir toujours ce qui, chez les autres, ne va pas, et de prononcer une parole de jugement, alors que soi-même, il y a peut-être des choses à redire. Et Jésus va même plus loin en disant que non seulement il le voit, mais il prétend pouvoir ôter cette petite paille alors qu'il n'arrive même pas à ôter la poutre qui est dans son œil. Encore faut-il voir la poutre. Non seulement il la voit pas, mais encore moins il peut l'enlever. Et ceci m'amène à un exemple que nous trouvons dans la parole de Dieu. C'est dans Luc chapitre 18, avec cette parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien, il est là, il est dans le temple, et il est en train de louer le Seigneur, il est debout, et il est en train d'exposer devant Dieu tous ses mérites. « Ah, Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Il porte un jugement sur lui-même, hein, plus que positif. Il est en train de, non pas de louer le Seigneur, hein, il est en train de se glorifier, lui, en fin de compte. Je te loue de ce que je ne suis pas comme les autres des hommes, je donne la dîme de tous mes revenus, etc. Je jeûne deux fois par semaine. Quel homme spirituel, très consacré, vous voyez. Et je ne suis pas comme le reste des hommes, comme ce publicain-là. Parce qu'à côté, il y avait un publicain. Lui, il était en train de se lamenter, il était en train de s'humilier. Et il demandait au Seigneur vraiment grâce, pardon, il se sentait même pas digne, hein, de lever les yeux au ciel. Donc, Jésus dira, cet homme publicain va rentrer justifié. Alors, nous voyons que ici, l'orgueil est en question. L'orgueil est en question. L'orgueil de ce publicain, l'orgueil de voir les petits défauts des autres et de les pointer du doigt sans considérer qu'il y a des choses à revoir dans notre propre vie, dans notre propre cœur. On se rassure soi-même lorsqu'on porte un jugement sur les fautes des autres, en se disant, ah, moi, au moins, je fais pas ça. Vous voyez, on rassure sa conscience. On a besoin d'être rassuré parfois. Et dans notre vie chrétienne, on a parfois besoin d'être rassuré. Mais ce qui nous rassure, ce n'est pas de porter un jugement sur les autres. Ce qui nous rassure, c'est que nous avons le pardon de Dieu. C'est ça qui nous rassure. Parce que les uns et les autres, nous ne sommes pas parfaits, mais nous savons que nous sommes bénéficiaires de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. On pourrait parler encore d'autres inspirations mauvaises, comme la jalousie. Au verset 5 de notre texte d'introduction, tout à l'heure, Jésus dira, et c'est là encore un autre élément qui est une inspiration mauvaise, qui nous amène à être faussés dans notre jugement, c'est l'hypocrisie. Jésus dira hypocrite. Nous sommes vraiment là, au cœur de ce que veut nous transmettre le Seigneur Jésus. Alors, l'origine de ce mot hypocrite a plusieurs origines, mais notamment, c'est juger par en dessous. Surtout, on se fait passer pour ce qu'on n'est pas, hein, en fin de compte. Et on va, bien sûr, porter un jugement qui est là sur les autres. Il y a beaucoup, beaucoup de mépris et beaucoup d'orgueil. On voit Jésus reprend souvent les pharisiens par rapport à leur hypocrisie. À un moment donné, il y a un pharisien qui reçoit Jésus chez lui. Très bien. Mais pendant le repas, voilà qu'une femme pécheresse entre et s'approche de Jésus. Et là, le pharisien commence à porter un jugement sur cette femme et à porter un jugement sur Jésus. Et il dira, on voit ça dans Luc chapitre 7, qu'il dit en lui-même, hein, il n'a même pas besoin de prononcer une parole parce que le jugement, il est d'abord dans les pensées. Il dit en lui-même, eh bien, si cet homme était prophète, déjà, premier jugement sur Jésus, il serait qui et de quelle espèce est cette femme ? Ah, probablement une prostituée. Voyez ? Le jugement. Et là-dessus, Jésus, qui connaît les pensées de chacun, qui n'a pas besoin qu'on ouvre la bouche parce qu'il sait déjà ce que nous pensons, va lui proposer, j'allais dire, une énigme. Enfin, c'est pas une énigme, il va lui enseigner quelque chose par rapport au pardon, au travers d'une question qu'il va lui poser. Ce que oubliait ce pharisien, qui était dans l'hypocrisie et dans le mépris, c'était le pardon et la miséricorde. On va en reparler tout à l'heure parce que nous savons aussi que la miséricorde triomphe du jugement. Et ce pharisien, qui était à cheval sur des normes religieuses et sociales, et les deux étaient mélangés en Israël, eh bien, dès que ces normes-là étaient, j'allais dire, transgressées, de suite, un jugement était porté. On le voit, puisque Jésus était considéré comme un mangeur et un buveur, parce qu'il recevait les gens de mauvaise vie et qu'il mangeait avec eux. On voit que des jugements ont été portés sur Jésus parce que, eh bien, il faisait des guérisons le jour du sabbat. Exemple encore. Donc, on voit que dès que ces normes-là étaient à leurs yeux transgressées, eh bien, il y avait un jugement, mais ils ne comprenaient même pas ce que signifiait réellement le sabbat et puis autres, eh bien, lois qui pouvaient exister dans la loi de Moïse. Et quand bien même, ils les comprenaient bien, leur jugement était encore là faussé. Je prendrai un exemple, parce qu'ils avaient des pensées mauvaises. C'est la femme adultère. Alors là, vous allez dire, là, il n'y a pas photo. Hein. Elle est surprise en flagrant délit d'adultère. Donc, ils la portent vers Jésus. Sauf que, quand on lit le texte dans Jean chapitre 8, on voit que c'était pas tellement l'affaire de l'adultère qui les intéressait. C'était de piéger Jésus. Vous voyez, là, voilà. On peut se servir, soi-disant, d'une cause juste pour pour essayer soit de manipuler quelqu'un, soit de porter accusation sur lui. Et là, il se servait soi-disant d'une cause juste pour piéger Jésus. D'autant que s'ils étaient vraiment justes, il est dit que c'était un flagrant délit d'adultère. Mais dites-moi, adultère, faut être au moins deux. Faut être au moins deux. Si c'est un flagrant délit d'adultère, il était où l'homme ? Injustice déjà là. Oui. Eux qui se vantaient d'être justes commettaient une injustice et en plus, c'était pour piéger Jésus. Et ne nous servons pas, frères et sœurs, des causes qui paraissent justes simplement soit pour régler des comptes, parce qu'ils avaient des comptes à régler avec Jésus, ils voulaient l'enfoncer, ou soit faire autre chose. Ça ne sert pas à ça, le jugement. Ça ne sert pas à ça, la justice. Dans Jean, chapitre 7, verset 24, on peut lire ce verset. On a là encore une autre piste de réflexion, c'est que nous jugeons parfois selon les apparences. Et Jésus dira, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice, selon l'apparence. On fait vite des raccourcis. Hein. On voit quelque chose, vite, on s'empresse d'en déduire que. Notre déduction, en fin de compte, est un jugement. Alors, comme je le disais tout à l'heure en introduction, on évite le terme juger. On donne son avis, on constate, j'en déduis que. Oui, mais ta déduction, elle est basée sur quoi ? Est-ce qu'elle est basée sur la justice ou sur l'apparence ? Or, pour qu'il y ait justice, il faut quand même que la situation ait été bien réfléchie. Pour qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait des preuves. Pour qu'il y ait justice, il faut vraiment qu'on ait bien observé afin que on ne se base pas sur des choses qui nous apparaissent comme étant vraies, mais en fin de compte, c'est que de l'apparence. Et des jugements selon l'apparence, on en a dans la parole de Dieu. Et on en a aujourd'hui encore, on est confronté à ça, des jugements trop rapides, des jugements raccourcis parce qu'ils sont basés sur l'apparence et qu'ils ne sont pas basés selon la justice. Et Jésus nous invite dans un autre texte à ce que notre justice surpasse celle des pharisiens. Il va loin, Jésus. Parce que la justice des pharisiens, elle est légaliste, la justice des pharisiens, elle est basée sur l'apparence. La justice des pharisiens est basée sur l'hypocrisie, pas celle que veut nous enseigner notre Seigneur Jésus-Christ. Notre jugement est faussé parfois parce que on veut suivre l'avis du plus grand nombre. Et ça, on le voit encore dans tous ceux qui ont porté condamnation sur Jésus. Certains étaient dans la crainte de ce qu'allait dire la majorité des pharisiens et du Sanhédrin. Et dans notre fort intérieur, on sait que c'est faux, mais parce que l'on ne veut pas être désavoué d'un groupe de personnes, qu'on ne veut pas être considéré comme étant marginal dans notre décision, dans notre appréciation des choses, on va aller dans le sens du plus grand nombre. Ça encore, c'est un jugement qui est faussé. C'est un jugement qui est faussé. Nous allons retourner dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, verset 12. Jacques, chapitre 2. Verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Nous allons être jugés du jugement dont on s'est servi, de la mesure dont on s'est servi, afin que nous n'aurions rien à redire. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, et la miséricorde va triompher du jugement. Le jugement peut être basé sur des faits qui sont réels. Pour revenir à la femme surprise en flagrant délit d'adultère dont je parlais tout à l'heure, le fait est vérifié. C'est un flagrant délit. Il est réel. Le jugement, s'il avait été, son accomplissement terminal, jusqu'au bout, cette femme aurait été lapidée selon la loi. Et c'est ce que provoque un jugement lorsqu'il va jusqu'à son terme. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le jugement pollue aussi nos relations entre nous. Que va dire cette femme ? Que va dire Jésus à cette femme ? Va et quoi ? Ne pêche plus. Jésus va renvoyer libre cette femme. Elle est libre. Va. Ça, ce va montre la liberté que Jésus offre à cette femme. Mais liberté ne veut pas dire n'importe quoi. Cela ne veut pas dire que Jésus approuve l'adultère. Cela ne veut pas dire que Jésus est d'accord avec ce que se fait cette femme. Mais il va non seulement lui offrir la liberté, mais lui donner une orientation à cette liberté. Avec cette recommandation, ne pêche plus. Et qu'est-ce que ça voulait dire, ne pêche plus ? Ça voulait dire pour cette femme la repentance, avec le fruit digne de la repentance, c'est-à-dire rompre cette relation d'adultère. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 13 que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Est-ce que le jugement que je porte est selon la vérité ou selon l'injustice, selon l'inspiration de pensées mauvaises, selon l'orgueil, selon le mépris, selon l'hypocrisie, selon la peur, selon la jalousie, et on pourrait allonger la liste. Ou est-ce qu'elle est selon la vérité? Il dira encore que l'amour excuse tout, que l'amour espère tout. Oui, il y a des situations qui sont flagrantes. Et c'est là que la miséricorde va entrer en jeu. Parce que la miséricorde va nous amener à aller au-dessus, à passer par-dessus le jugement et à donner une possibilité à celui qui a commis une faute d'avoir, une nouvelle possibilité de pouvoir s'en sortir. Parce que le jugement, au contraire, va bloquer la situation. La miséricorde triomphe du jugement. Et si nous avons été miséricordieux, nous serons traités, nous aussi, avec miséricorde. Il était recommandé au souverain sacrificateur, et nous voyons ça dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 2, d'agir avec indulgence. Les souverains sacrificateurs pouvaient être indulgents parce que eux aussi étaient des hommes enclins à la faiblesse. Il ne fallait pas qu'ils l'oublient. Ce n'était pas parce que tu étais souverain sacrificateur, donc c'est-à-dire le responsable religieux de tout le peuple d'Israël, c'était ça en fin de compte, hein, qu'il fallait que ce souverain sacrificateur soit dur et impitoyable. Il devait être indulgent en se rappelant que lui-même était un homme de la même nature que les autres. C'était pour ça aussi qu'il offrait pour lui-même, ainsi que pour le peuple, les sacrifices, mais aussi pour lui-même. Il devait, ça voulait dire aussi qu'il devait regarder à lui-même, à ses propres péchés. Cela le responsabilisait d'autant plus par rapport à tout ce qu'il avait à transmettre au peuple d'Israël par rapport à la loi de Moïse. En disant ceci, en parlant de miséricorde et d'indulgence, qui doivent être une composante importante dans la manière où nous jugeons les autres, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tout faire. Loin de là. On peut lire 2-3 versets dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14. L'apôtre Paul dira « Nous vous en prions, frères, aussi, frères, avertissez. Oui. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » Pour avertir, c'est pas si simple que cela. Parce que lorsqu'on veut avertir quelqu'un, et nous voulons le faire avec beaucoup d'amour, bien, la réponse qu'on a parfois, qui nous revient au visage, lorsqu'on veut avertir quelqu'un, et ça je l'ai vu plusieurs fois en tant que pasteur, c'est « Ah, tu portes un jugement sur moi ». Comme si l'autre voulait se protéger et refuser un avertissement. Mais il est quand même biblique d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 2, 2 Timothée chapitre 4, verset 2, 2 Timothée 4, verset 2, quelques recommandations que Paul adresse à Timothée, qui fut pasteur une partie de son ministère à Éphèse, il dira « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Il y a cette précision qui vaut son pesant d'or, j'allais dire, avec toute douceur et en instruisant, parce qu'il faut qu'on comprenne. En instruisant, et il faut que ça soit fait avec douceur. La douceur de l'amour, la douceur de l'humilité. Mais l'orgueil, parfois nous jugeons par orgueil, comme je le disais tout à l'heure, nous rend durs et méprisables. Alors, voilà, donc on laisse pas tout faire. Et il y a d'autres textes encore qui nous montrent aussi que ce n'est pas parce que nous agissons avec miséricorde qu'il faut tout laisser faire, bien sûr que non, mais la miséricorde va nous amener à avoir les bonnes paroles au moment qu'il faut, au moment opportun, et à triompher du jugement qui, lui, au contraire, va enfermer la personne sans lui donner la solution et sans lui donner la possibilité de rebondir dans sa vie. Alors, on pourrait bien sûr encore, étudier et approfondir le sujet, mais j'aimerais juste rappeler ce verset que je lisais en introduction, c'est qu'à l'égard du jugement, il faut que nous soyons des hommes faits. Non pas des enfants. À l'égard de la malice, oui, des enfants. Alors, comprenons bien, l'apôtre Paul dit de ne pas être comme des enfants à l'égard du jugement. Vous avez été déjà, je suppose, dans une cour de récréation, dans une école primaire ou à la maternelle. Ça y va, hein. Les enfants, ils ont des paroles très agréables les uns vis-à-vis des autres. Les instituteurs ne diront pas le contraire. Non, il y a des paroles de jugement dans les cours de récréation. Mais c'est, voilà, c'est du direct, j'allais dire, hein. C'est spontané, un enfant. Il ne réfléchit pas vraiment à ses paroles, il voit ça, ben, c'est selon les apparences, ou selon ceci, bon, mais ce sont des enfants. Pas comme ça que nous, adultes. Alors si nous devons ressembler à les enfants, comme dit la parole de Dieu, c'est par rapport à l'humilité et à la foi. Mais par rapport au jugement, nous devons être des hommes faits. c'est-à-dire qui réfléchissent, qui analysent les situations, qui ne se basent pas sur les apparences, qui examinent leur propre cœur pour voir si le jugement qu'ils sont en train de porter est selon la justice, selon la vérité, selon l'amour, dépourvu d'orgueil, d'hypocrisie et de toutes les choses qu'on a vues tout à l'heure. Et débarrassé de toutes ces scories et empreint de miséricorde, alors c'est là que notre jugement sera fait en tant qu'homme mature par rapport à la malice, soyons des enfants. C'est-à-dire, les enfants, ils ne vont pas calculer. Je veux dire, par contre, les adultes, quand ils font un mauvais coup, ils calculent. C'est prémédité. Comprenez ? Les enfants, c'est par réaction. C'est spontané. Sans chercher vraiment, voilà. Mais quand un adulte agit d'une manière mauvaise, c'est que ça a cogité. Et c'est pour ça que par rapport à la malice, nous devons être des enfants. C'est-à-dire que ça n'a pas mûri et cogité dans notre cœur. Mais par rapport au jugement, oui, nous devons être des hommes faits, comme dit la parole de Dieu, nous rappelant qu'un jour, Jésus nous a fait, nous, miséricorde. Il aurait pu porter un jugement sur nous et nous enfermer, telle la femme samaritaine. Il aurait pu, Jésus, dire à ces hommes qui lui apportaient cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, « Ah ben oui, Moïse, il a dit ça, lapidez-la. » Non, il n'a pas agi comme cela. Et Jésus nous a montré l'exemple sur la croix envers ceux qui le maltraitaient, envers ceux qui étaient en train de l'insulter. Alors là, c'est un jugement, j'allais dire, renforcé par la moquerie, renforcé par la haine, le mépris, l'insulte. Là, il a agi avec miséricorde, qui a triomphé du jugement en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et nous voulons, nous aussi, agir en demandant, de la même manière, en demandant toute la grâce du Saint-Esprit pour que nous puissions ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ, que son nom soit glorifié dans nos vies et qu'il nous aide les uns et les autres en toute occasion, parce que, je le reconnais, c'est pas si simple que ça. Amen. Merci Seigneur, à toi soit toute la gloire, à toi soit tout l'honneur. Seigneur, tu nous rappelles d'examiner toutes choses. Nous voulons examiner nos cœurs déjà, Seigneur, éprouver nos cœurs, comme nous dit ta parole. Oui, nous voulons éprouver nos cœurs avant de dire une parole sur quelqu'un, Seigneur. Ou que ton nom soit glorifié en nous, nous voulons suivre tes traces, Seigneur, et agir comme toi-même tu as agi, Seigneur, être empreint de miséricorde. Ah Seigneur, que ton nom soit glorifié dans nos vies, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans l'Église. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous à acquérir cette maturité jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Oh, à toi soit toute la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Et comme nous l'avons chanté, c'est auprès de toi que nous voulons être, Seigneur. Nous voulons venir nous réfugier en toi, car nous savons qu'auprès de toi, nous avons le pardon de nos péchés. Gloire à ton nom, Jésus. Amen.